7h. Le journal de 7h. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et merci de nous suivre sur les 96.0 FM Radio de la Paix Abidjan et ses environs. En titre préparatif de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Begré-Mambé, a exhorté hier mardi les populations des Bimpé à se mobiliser pour l'organisation parfaite de la CAN dans notre pays. Parlons de budget de l'État, 42,05% des 13 720 milliards seront affectés au développement des infrastructures et 13,02% à la santé et à l'action sociale, a dévoilé le ministre des Finances et du Budget Adama Koulibaly qui était hier mardi face à la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Dans l'actualité hors des frontières ivoiriennes, le dernier convoi de la MINUSMA au Mali est arrivé hier à Gao, une semaine après son départ de Kidal. Et pour ce qui est du contenu des unes de vos quotidiens de ce mercredi, Jean-Claude Comé s'est chargé de les parcourir. Il sera avec nous pour sa revue des titres. Et en fin de journal, le colonel Akédanou Stéphane, chef du bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires, reviendra avec Jean-Noël Kwame sur le rôle de cette structure de l'armée ivoirienne. Ce sera dans l'invité de la rédaction. Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Begré-Mambé, en visite au stade de Bimpé hier, a exhorté les populations à se mobiliser pour l'organisation parfaite de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et la chefferie des Bimpé dit avoir compris le message du Premier ministre, chef du gouvernement, et promis de l'aider dans ce sens. Notre reporter César Yao a suivi les différents échanges, son compte-rendu.
Robert Begré-Mambé a saisi cette rencontre d'échange avec la population et la chefferie pour traduire la gratitude de toute la nation et la reconnaissance du gouvernement au village de Bimpé pour avoir accepté de donner ses terres pour la réalisation du stade olympique Alassane Ouattara.
C'est de demander aux femmes, aux jeunes, aux doyens de se mobiliser tous pour que la grande ferveur soit servie à cette grande compétition. Par conséquent, je demande à nos parents, les chefs, les femmes, les jeunes, d'en faire leur affaire. Prenez cela en main.
Mondon Alsepa, comme chef du village de Bimpé, a par la suite soutenu que la visite de Robert Begré-Mambé revêt un sens symbolique et a assuré le chef du gouvernement que le village de Bimpé et tous les villages environnants attachent un prix à la réussite de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.
Le village de Bimpé qui a cédé 287 hectares pour la construction du stade et de la cité olympique attache du prix à cette marque de fraternité qui le rassure. Et Bimpé, c'est la terre de tous les possibles.
Après cette rencontre, le Premier ministre Robert Begré-Mambé était en compagnie de responsables d'entreprise du Bénin et des ingénieurs qui sont sur le chantier pour déterminer des repères de date pour la finition des travaux en cours.
Merci à vous César Yao pour ce compte rendu et c'est parti pour l'analyse du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. À l'Assemblée nationale, les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières vont voir se succéder devant eux l'ensemble des ministres pour la défense de leurs budgets respectifs. Mais avant, c'est le ministre des Finances et du Budget qui vient de faire une introduction générale sur ce budget sans débat, sur les grandes lignes donc de ce budget. Écoutons Adama Koulibaly, ministre des Finances et du Budget.
Et nous avons un budget pour l'année 2024 qui s'équilibre en ressources et en charges à 13 720 milliards de francs CFA. Les ressources du projet de budget 2024 sont composées de 6 569 milliards de recettes budgétaires, 5 851 milliards de ressources de trésorerie et 1 300 milliards de recettes des comptes spéciaux du trésor. La répartition de ces 13 720 milliards en termes de recettes, les recettes fiscales représentent 54,6%, les recettes non fiscales 1,2%, les emprunts sur le marché monétaire et financier 25%, et les emprunts projets 9,5%, et les dons avec 1,8% de contribution dans notre budget. La répartition par mission, développement des infrastructures et des équipements collectifs, 42,5% du budget. La santé et l'action sociale, 13,2%. Pour l'environnement, le cadre de vie et la protection, 12%. La production, le développement industriel et commercial, 8,7%. La défense, la sécurité et la justice, 7,3%. L'enseignement, la formation et la recherche, 6%. L'administration générale et le développement économique, 5%. La culture, la jeunesse, le sport et le loisir, 2,5%. Et le pouvoir public, la souveraineté et la gouvernance, 2,8%.
À l'instant, le ministre des Finances et du Budget, Adama Koulibaly, présentant quelques détails du budget de l'année 2024. Et après le ministre des Finances et du Budget, celui de la Défense a également présenté et fait adopter son budget qui s'élève à 399 milliards. Une idée de l'affectation de ce budget avec Tenebi Raïma Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense.
À l'orée de l'année 2024, de nombreuses incertitudes demeurent du fait de la dégradation de la situation sécuritaire de la sous-région. Les conséquences des récents changements de régime politique opérés par voie non constitutionnelle dans les pays de la CEDEAO, le retrait des forces d'interposition entre les belligérants au Sahel, la montée du terrorisme, sont autant de facteurs qui pourraient avoir un impact négatif sur les perspectives de paix et de stabilité en Afrique de l'Ouest. Face à ces défis auxquels la Côte d'Ivoire se trouve confrontée, le ministère d'État, ministère de la Défense s'est résolument engagé à œuvrer pour doter notre pays d'un outil de défense suffisamment fort pour contrer toute menace pesant sur la stabilité économique et la sécurité de nos concitoyens. Il s'agit d'acquérir de nouveaux équipements dédiés au renseignement, d'intensifier la lutte contre le terrorisme par le renforcement du contrôle et la surveillance de nos frontières, de poursuivre l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires et des gendarmes, d'accroître les mécanismes de riposte contre le grand banditisme et les menaces sécuritaires. Ces actions ont pour objectif majeur la préservation d'un climat de quiétude au profit des populations vivant sur le territoire et surtout la facilitation des actions du gouvernement pour la poursuite des projets de développement socio-économique et pour le respect de ses engagements, notamment l'organisation de la CAN 2024.
Vous écoutiez le ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebi Raïma Ouattara, dans des propos rapportés par Junior Cardin. Signalons qu'au même moment, les budgets du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et du ministère de la Justice, qui s'élèvent respectivement à 682 milliards et 95 milliards de francs CFA, ont également été adoptés par la Commission. Vu les partis politiques à présent, le PDCI-RDA, le plus vieux parti sur l'échiquier politique ivoirien, tiendra le 16 décembre prochain son 8e congrès extraordinaire électif. Un rendez-vous qui intervient suite au décès le 1er août dernier de son président, Feu Henri Conan Bédier, et qui, selon les observateurs, présente de gros risques pour l'unité, voire la survie de ce parti. Et pour y faire face, certains proposent donc le consensus autour d'une candidature au détriment de l'application des textes en vigueur. Une proposition réfutée par l'analyste et politologue ivoirien Geoffroy Julien Kouaou. Pour lui, le consensus est une question non démocratique et il faut plutôt harmoniser le texte et le contexte. Nous écoutons ses explications.
Le consensus n'est pas démocratique. Le consensus s'inscrit dans la pensée unique. Il faut écarter cette hypothèse dans le cadre d'un parti qui se veut démocratique. Toute élection, que ce soit dans le cadre d'un parti politique ou dans le cadre étatique, est avant tout concurrentielle. Ça permet de voir les forces et faiblesses des différentes tendances au niveau du parti. Il faut éviter le consensus qui n'a rien de démocratique. Parce qu'en fait, le consensus signifie l'unanimité. Or, dans une démocratie, on ne cherche pas l'unanimité, on cherche à avoir la majorité. Deuxièmement, volet, il y a les tests, mais il y a aussi le contest. Je pense qu'il faudrait, dans le cadre du PDCI, harmoniser le test et le contest et rendre ces élections totalement libérales, permettant à toutes les personnalités qui le souhaiteraient de pouvoir se présenter. Dans le cadre d'un parti démocratique, la seule conditionnalité pour être candidat à la présidence de ce parti devrait être, à mon avis, le fait d'appartenir au parti et d'avoir sa carte de parti. Il faut éviter des conditionnalités moins démocratiques.
C'était Geoffroy Julien Kouaou, analyste et politologue ivoirien. À la faveur de la triple cérémonie de rentrée judiciaire solennelle, de présentation de deux nouveaux magistrats et de la prestation de serment de ces derniers, le procureur général près la cour d'appel de Korogo, Kouné Souleymane, dresse un bilan des activités de cette cour, un bilan qu'il juge positif du fait du rapprochement désormais en vigueur entre les populations et la cour d'appel de Korogo. Il apporte ici plus de précisions au micro de Marcel Bouni.
Il y a quatre cours d'appel en Côte d'Ivoire et nous sommes la dernière née de ces cours d'appel-là. Et en termes de bilan, nous pouvons dire aujourd'hui que le bilan est très satisfaisant parce que par le passé, nos compatriotes vivant dans les quatre régions que constitue notre ressort territorial, je parle de la région du Koro, du Tchologo, de la Bagoué et du Denguele, étaient obligés d'aller jusqu'à Boaké lorsqu'ils relevaient appel ou ils exerçaient leur voie de recours. Donc ça faisait que certaines personnes, compte tenu de la distance et de commodité à prendre en place à Boaké, laissaient tomber leurs droits alors qu'ils avaient la possibilité de le faire. Aujourd'hui, la cour d'appel s'est rapprochée des populations de ces quatre régions septentrionales. Et de sorte qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens commencent à saisir la cour d'appel de Korogo, puisque en termes de gains, ils gagnent forcément. En temps, en numéraire, ils voient leurs affaires jugées dans des délais raisonnables. Pour notre part, nous faisons l'essentiel pour satisfaire les populations qui sont dans notre ressort territorial. Très bientôt d'ailleurs, nous aurons une journée porte ouverte au sein de la cour d'appel. Pour faire connaître davantage la cour d'appel, il faut que de plus en plus, on se rapproche des populations.
Kouné Souleymane, procureur général près la cour d'appel de Korogo, revenant sur les activités de cette cour. Dans l'actualité, hors des frontières ivoiriennes, le dernier convoi de la MINUSMA au Mali qui avait quitté Kidal le 31 octobre dernier est arrivé hier soir, 7 novembre, à Gao. N'ayant pas obtenu d'autorisation nécessaire pour organiser un pont aérien pour rapatrier les casques bleus personnels et matériels, le convoi de la MINUSMA a été donc obligé de rallier Kidal à Gao par la route. Et puis l'Union des journalistes de la presse libre africaine, UJPLA, désapprouve les sanctions liées à la presse par la junte burkinabé, alors qu'elle vient d'envoyer un journaliste au front. Les associations de presse panafricaines s'expriment donc. Écoutons à cet effet le président de l'UJPLA, Noël Yao.
Toutes les personnes qui expriment un point de vue différent, divergent de celui de la junte au pouvoir sont mis à l'index. Et cette façon d'envoyer des leaders d'opinion, des activistes, des journalistes au front est donc la sanction qu'on impose aux gens qui expriment un point de vue divergent. C'est une forme de musulman, de promotion de la pensée unique. L'UJPLA condamne cette atteinte à la liberté de la presse. Et donc, se solidarise avec les organisations du Burkina qui ont émis un communiqué de désapprobation et de condamnation de cette façon d'envoyer des journalistes, des activistes, des leaders d'opinion sur le front de bataille. Il faut dénoncer cette façon plus ou moins martiale et cavalière d'embastiller des journalistes et la condamnation énergique, ferme de ces réquisitions à répétition et de toutes les atteintes à la liberté de la presse depuis un certain temps au Burkina Faso par la junte militaire.
À l'instant, le président de l'UJPL, l'Union des journalistes de la presse libre africaine, Noël Yao. Et sans transition, nous retrouvons Jean-Claude Comé dans ce studio qui s'est chargé de parcourir les unes des journaux ivoiriens de ce mercredi. Il est avec nous pour sa revue des titres. Bonjour Jean-Claude Comé.
Bonjour Linda Balier, bonjour à tous. Le stade Alassane Ouattara de Bempe fait parler de lui après l'inondation de sa pelouse lors du match amical Mali-Côte d'Ivoire. Et bien c'est cette fois-ci, c'est sa visite hier par le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui le remet sous le feu des projecteurs, notamment la une des journaux parue ce mercredi 8 novembre. Fraternité Matin rapporte qu'à l'occasion de cette visite du Premier ministre Mambé, par ailleurs ministre des Sports, celui-ci a affirmé « Nous veillerons à tous les détails ». Pour le confrère, le matin, par cette visite, Mambé met le turbo et le tempo. CAN 2023, Begré-Mambé sonne la mobilisation depuis BMP, affiche le mandat à moins de 3 mois de la CAN. Ce que Mambé demande à BMP se propose de dire. Le temps, l'expression révèle que le Premier ministre a confié la CAN et le stade ado au chef d'BMP, car pour lui, BMP, c'est la terre de tous les possibles, déclare-t-il en une du sursaut. Mobilisation des ressources de l'État. Le confrère, le matin, présente les grandes articulations du budget de 2024. Projet de loi des finances. Les députés examinent le budget de l'État de 2024, rapporte le Patriote. L'Inter précise que le ministre Adama Koulibaly a présenté hier les grandes articulations du budget aux députés de la KEF, entendez, la Commission des affaires économiques et financières. Le gouvernement défend le budget 2024, annonce aussi Fraternité Matin. L'expression outre le ministre des Finances et du Budget et signale que le ministre de la Défense était également devant les députés pour le budget de son département et selon le confrère, Tene Biraïma Ouattara a reçu le quitus des parlementaires. L'actualité politique est, elle, dominée par ce qui se passe au PDC-RDA avec ce souhait émis par le président intérimaire de ce parti, le professeur Philippe Copliboni, qui en une de l'Inter souhaite que le PDC survive, car selon le panafricain, le parti est dans un dilemme par rapport à qui choisir entre Guy Kawé, Bendjo et Thiam. Situation que Dernière Heure Monde résume en ces termes, PDCI entre juridisme et réel politique. Le confrère sceptique quant au consensus, le patriote donc, sceptique quant au consensus souhaité par le président intérimaire Copliboni, parle de bataille déjà perdue de celui-ci. Le jour plus dans la même veine que son confrère fait remarquer que la guerre des clans fait rage par rapport à la présidence du PDC-RDA. Autre parti, le PPACI, et l'heure est à la remobilisation et c'est ce que transparaît en une du Temps et du Quotidien d'Abidjan qui parle d'une réunion du secrétariat de ce parti, redynamisation de son parti, le président, le message de fermeté de Gbagbo annonce la voix originale. Et pour terminer, c'est notre voix qui l'écrit, le ministre de l'Intérieur annonce un nouveau passeport ivoirien. À vos journaux et bonne lecture à tous.
Merci à vous Jean-Claude Comé pour cette revue des titres. Prochain rendez-vous avec vous, c'est dans l'édition de 8h. Dernière articulation de ce journal, l'invité de la rédaction avec le colonel Aké Danho Stéphane, chef du bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires. Il s'agira de découvrir cette entité de l'armée ivoirienne, ses prérogatives et ses objectifs. Notons que le bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires a organisé récemment au 2e bataillon de Daloa des journées carrières autour du thème « La reconversion, deuxième chance pour le militaire et le gendarme en fin de carrière ». Le colonel Aké Danho Stéphane répond aux questions de Jean-Noël Kwame.
Bonjour, colonel Aké Danho Stéphane.
Bonjour.
Vous êtes le chef du bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires BARM. Quelles sont les activités que mène ce bureau d'accompagnement et de reconversion?
Le BARM existe depuis 2018. Il fallait mettre en place d'abord tout ce qui a trait au fonctionnement, procéder au recrutement du personnel qualifié pour animer le bureau. Nous avons inséré bon nombre de militaires dans des emplois du secteur privé, des emplois salariés de la fonction publique et aussi dans l'auto-emploi.
Alors quand vous dites réinsérer dans le secteur privé, public, c'est exactement où et qu'est-ce qu'ils font par exemple?
En ce qui concerne la fonction publique, nous bénéficions d'un décret portant reconversion des militaires et gendarmes. Ce décret est dans sa phase d'application. Cette année 2023, nous avons pu insérer près de 249 militaires dans des emplois de la fonction publique, les eaux et forêts, la police maritime et les gardes pénitentiaires. En ce qui concerne les entreprises privées, un bon nombre de nos infirmiers sont insérés dans notre compagnie de transport urbains. Il y a l'Office du service civique national qui emploie grand nombre de nos militaires à l'encadrement des cohortes mises à la disposition. Et en ce qui concerne l'entrepreneuriat, 94% de nos demandes, nous avons un dispositif très abouti qui permet un accompagnement à l'entrepreneuriat et une mise à disposition de fonds pour ceux qui en ont besoin et un suivi pour pérenniser les projets de nos bénéficiaires.
Alors, je suis un militaire, je souhaite me reconvertir dans une activité. Quelles sont les conditions, quelles sont les dispositions à prendre?
On parle de reconversion des militaires en cessation d'activité. Donc, il faut être militaire à la retraite. Tout militaire radié de l'effectif ou problème disciplinaire n'a pas droit à une reconversion. Soit vous partez par départ volontaire, soit vous partez à la limite d'âge statutaire, 55 ans pour les militaires du rang et les sous-officiers, et à partir de 57 ans pour les lieutenants-colonels et ça varie jusqu'aux généraux. Ceux qui vont pour des questions de santé sont pris en compte dans le dispositif et donc vous vous inscrivez au baron pour commencer un pré-profilage. Nous vous appelons et nous vous inscrivons soit pour les emplois secteur privé, c'est des offres que nous recevons des entreprises privées partenaires que nous avons. En ce qui concerne la fonction publique, nous appuyons sur vos capacités, vos qualifications pour pouvoir faire des demandes d'intégration. Le décret balise les conditions d'accès à la fonction publique pour les militaires en fin de carrière.
Alors, mon colonel, qu'est-ce qui est mis en place pour assurer justement à ces militaires bénéficiaires une reconversion durable et garantir une bonne utilisation des fonds mis à leur disposition?
Pour la création d'entreprise, c'est le bénéficiaire lui-même qui choisit. Il peut être en possession de lui-même ses fonds, nous faisons l'accompagnement et lui-même créer son entreprise. S'il veut des fonds, nous avons un partenaire financier qui octroie ses fonds sous forme de prêt. En ce qui concerne les emplois salariés, nous participons au renforcement des capacités pour pouvoir permettre de pouvoir être intégré dans certaines entreprises. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, c'est vu la pertinence du projet que la commission interne au niveau du BAM accorde le crédit. Nous insistons sur le suivi du projet, un suivi de 2 ans pour garantir la pérennité des activités, la pérennité de l'emploi de nos bénéficiaires.
Quels sont justement les secteurs d'activité ouverts à cet effet et quels sont les niveaux de financement disponibles pour les militaires candidats à la reconversion?
Les projets actuellement vont de 2 millions à plus de 10 millions. Ces fonds ne sont pas forcément plafonnés. En ce qui concerne l'auto-emploi, nous avons tous les secteurs d'activité. Nous avons des partenaires techniques qui nous accompagnent, notamment l'ANADER dans tout ce qui est agriculture agro-pastorale, l'AGFOP. Tout ce qui est artisanat, l'INIE et la plateforme de services qui nous accompagnent pour tout ce qui est commerce, transport, l'agro-pastoral est très prisé par nos bénéficiaires. Tout ce qui est élevage de volailles et de porc. Même dans le bâtiment, nous avons certains bénéficiaires qui sont entrepreneurs.
Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous aurez par exemple des chiffres de militaires, bénéficiaires ou candidats dans le processus?
Nous comptons d'ici la fin de l'année 2024 accompagner dans le domaine de l'entrepreneuriat 2000 militaires. Depuis 2022, nous allons lancer la première cohorte de 1379 militaires. Nous lancerons à partir du mois de novembre la deuxième cohorte pour atteindre 2024 avec les 2000 à reconvertir.
Alors, avez-vous justement des success stories, des histoires de militaires ayant réussi leur reconversion?
Oui, effectivement, le premier, il a modernisé son atelier de photographie avec des appareils numériques de génération. Le deuxième, fondateur d'école, a augmenté ses capacités d'accueil au niveau des classes. Le troisième, à l'intérieur du pays, a pu, lui, agrandir son motel. Il y a plusieurs cas comme ça. Tous les militaires en fin de carrière et même encore en activité, la reconversion professionnelle est une nécessité. Il faut y penser. C'est une aubaine que l'État de Côte d'Ivoire donne à nos militaires pour réaliser les rêves, avoir une bonne retraite. Nous ferons tout ce qui est notre possible pour accompagner au mieux les militaires dans leurs rêves.
Merci infiniment, colonel Akeidao Stéphane.
Je vous remercie.
À l'instant, le chef du bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires BARM, le colonel Akeidao Stéphane, invité de la rédaction ce matin, il répondait aux questions de notre correspondant dans le Bas, dans le Haut-Sassandra, Jean-Noël Kwame. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Beugré-Mambé, en visite à Ebimpe hier, a exhorté les populations à se mobiliser pour l'organisation parfaite de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. budget de l'État, 42,05% des 13 720 milliards seront affectés au développement des infrastructures et 13,02% à la santé et à l'action sociale, a dévoilé le ministre des Finances et du Budget, Adama Koulibaly, qui était hier mardi face à la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité d'ici et d'ailleurs sur Radio de la Paix, c'est à 8h.